Bonjour à tous. Nous allons commencer ces huitièmes journées avec déjà 10 minutes ou un quart d'heure de retard. Donc on va essayer de faire les présentations et assez brèves. Le directeur de l'UMR Espace va introduire donc ces journées. Et puis nous allons enchaîner sur une journée qui va être assez dense.
Merci beaucoup. Donc, bienvenue à l'Université d'Avignon, que j'espère, comme moi, vous trouvez belle et agréable. Donc, l'idée, c'est de vous faire passer plusieurs jours sympathiques avec nous. Donc, nous sommes à votre disposition pour vous rendre ce séjour agréable. Tout d'abord, je voudrais remercier Nathalie, puisque Nathalie Brachet, qui est là, qui est la cheville ouvrière, mais aussi bien plus, en fait, puisqu'elle s'occupe de toutes nos conférences à l'UMR Espace, entre autres. Et donc, c'est une personne qui est extrêmement qualifiée et qui a beaucoup d'expérience dans ce genre de choses. Donc, je voudrais vraiment chaleureusement la remercier. Alors, quand Nathalie est venue me voir, j'ai dit « Ouais, ok, super, faire l'introduction du truc. » Et après, j'ai regardé le programme. Et là, j'ai vu quelque chose. Dominique Roux, je pense qu'il est dans la salle. Métop et interconnexion avec le OJS et Markdown. Et là, je me suis dit « Ouh là là, je suis mal, c'est du top niveau. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ?» Donc voilà, ça veut dire que voilà, c'est une conférence vraiment de haut niveau. Et moi, en regardant le programme, ensuite, j'ai vu des choses qui, en tant que chercheur, me résonnaient davantage. C'était par exemple les porteurs de handicap visuel, puisque moi, j'ai un projet de recherche sur justement l'aide au déplacement des aveugles. GitLab, ou alors également Episcience, puisqu'on a monté une revue ici qui s'appelle Jimmy's, avec Episcience, et puis je suis aussi un adorateur de LaTeX, que j'utilise fréquemment. Donc en fait, voilà, c'est tout l'enjeu pour nous, les scientifiques, de ces nouveaux modes d'édition. C'est vraiment essentiel. Et j'ai essayé de voir finalement, de mon point de vue du scientifique, pour nous, qu'est-ce qui était important. Et j'ai trouvé quelques mots-clés. Le mot-clé transparence, le mot-clé équité, qualité, visibilité et partage. Je vais vous donner les raisons un petit peu de ces mots-clés. D'abord, quand on est jeune chercheur, par exemple, on cherche à avoir de l'impact, donc à publier dans des revues qui sont attractives, qui sont reconnues, qui sont difficiles. Et du coup, il y a des systèmes qui captent en quelque sorte l'énergie des jeunes chercheurs. Et il y a une espèce de cercle infernal qui fait que certaines revues super cotées orientent la recherche des jeunes. Et pour moi, c'est pas bien. Il faut de la diversité. Et surtout, on ne connaît pas forcément la façon dont les impact facteurs sont calculés. Vous demandez à un jeune chercheur comment c'est calculé. Personne ne sait. Personne n'a fait l'effort d'aller regarder comment c'est calculé. Donc, on est dépendant et on est quelque part tiré par le système. Et donc, on perd notre degré de liberté. Donc, la transparence dans les nouveaux modes d'édition, c'est quelque chose d'essentiel, selon moi. Ensuite, il y a l'équité. Avec les nouveaux modes qui apparaissent d'open access où il faut payer pour publier dans les revues, eh bien, ça pose un problème d'équité vis-à-vis, par exemple, des pays qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui se retrouvent à ne pas pouvoir publier dans ces revues, notamment si elles montent en grade en impact facteur. Donc, vous voyez, c'est à nouveau un cercle infernal. Et moi, je suis très soucieux de cette équité. Donc, je pense qu'il est de notre devoir, nous, les organismes et les laboratoires, de prendre en main les publications de haut niveau et en arrivant à leur faire avoir des impacts forts. Ce qu'on fait déjà pour certaines revues, mais en ce qui me concerne, moi qui ai créé une revue il y a peu de temps, c'est très difficile d'arriver rapidement à un impact. Le troisième mot, c'est la qualité. On est finalement dans un mouvement où il y a à la fois une évaluation par les pairs qui existe toujours. Donc il y a des gens qui sont qualifiés pour évaluer les papiers, il y a des circuits classiques. Et puis à côté de ça, il y a, j'allais dire, l'opinion. Toutes les méthodes qui permettent de dire « Ah ouais, cet article est intéressant parce que », qui sont très riches aussi parce que ça permet de diffuser l'information, ça permet d'avoir un regard différent, pas forcément d'experts, mais parfois aussi d'experts, avec une évaluation plus ouverte. Et là, il y a l'idée de la qualité. Il faut qu'on arrive à conserver la qualité tout en ouvrant, à mon avis, la diffusion et la visibilité, finalement, de ces publications. Donc, c'est l'avant-dernier terme, c'est visibilité. On a maintenant des outils pour le faire, hein. Et puis le dernier truc, c'est le partage. Puisque finalement, maintenant, moi, typiquement, la tech en ligne que j'utilise, qui est Overleaf, en l'occurrence, me donne la possibilité de travailler en interaction avec des collègues qui sont un peu partout. Et ça a complètement changé ma manière de bosser. C'est-à-dire qu'en termes d'échange, de partage, même d'efficacité, j'ai beaucoup gagné. Donc moi, je crois beaucoup en tous ces systèmes. Et finalement, ça correspond bien à l'intitulé de votre journée, l'édition scientifique 4.0. Enfin, c'est un peu comme ça que moi, je l'appréhende. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous, chercheurs. Et c'est vrai que c'est essentiel que vous, avec nous, vous arriviez à avancer dans ces directions pour qu'on fasse du mieux possible à la fois pour essayer quand même de maîtriser la diversité, parce qu'il y a des pièges, il y a des arnaques à thésards. Moi, je suis tombé dans le piège Oisette il y a un an avec un de mes thésards qui a publié, qui est Oisette, c'est une revue qui finalement est en ligne, mais qui n'a pas beaucoup de valeur, puisque la qualité des reviews ne sont pas à la hauteur. Et on s'est fait entre guillemets avoir. Et on a eu un prix, alors on était tout contents, puis après on s'est aperçu que dans la liste des systèmes identifiés par le CNRS, ce n'était pas quelque chose d'extrêmement bon, quoi. Mais on ne le savait pas. Donc il faut qu'on soit vigilant à ça, et c'est à mon avis tout l'enjeu qui nous occupe à la fois les scientifiques et toutes les personnes chargées des éditions scientifiques, portées notamment par les organismes. Et pour finir, je voudrais dire que, en fait, c'est bien que ça se passe à Avignon, mais d'ici, d'abord, vous avez vu, la ville et l'université est chargée d'histoire, hein. On a aussi une fédération de recherche qui s'appelle Agorantique, qui est donc c'est autour des sociétés numériques. Donc il y a tout le côté SHS et le numérique. Et puis historiquement, il me semble, si je ne fais pas d'erreur, que Revue.org a été créé à Avignon, qu'ensuite on l'a donc c'est parti à nos amis marseillais. Ensuite, on a aussi les éditions universitaires d'Avignon. On a MapMonde dans notre laboratoire. Et puis on a aussi ma revue Jimmy's sur EpiScience. Donc voilà. Tout ça pour vous dire tout le bien que je pense de cette conférence. Et je dirais que nous, scientifiques, on a vraiment besoin de vous pour vraiment mettre au point des systèmes à la fois de qualité, transparents, équitables, visibles et partagés. Voilà, je vous remercie, je laisse la parole.
Catherine Claire nous a fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, donc la responsable de la plateforme des réseaux au sein de la MITI, dont elle va un peu parler.
Bonjour, bon, écoutez, je suis ravie de vous rejoindre à ces journées Médici. D'abord, je pense que moi-même, je vais apprendre énormément sur l'édition scientifique, ce qui est la raison de ma présence ici. Et puis, parce qu'on m'a demandé aussi de vous présenter un peu la MITI. Et puis la plateforme. Alors l'AMITI, ça veut dire mission et initiative transverse et interdisciplinaire. Pour certains, c'est l'ancienne MI, mission pour l'interdisciplinarité. Donc on vient de basculer le nom. Et puis, qu'est-ce que l'AMITI ? L'AMITI, c'est une direction du CNRS dont le rôle est de conduire une réflexion amont et transverse avec les 10 instituts sur des questions qui touchent à l'interdisciplinarité. Donc, elle sert d'aiguillon pour faire émerger des projets et des actions qui intègrent des notions de prise de risque, d'émergence, dans un contexte interdisciplinaire, c'est-à-dire faire travailler ensemble les différents instituts. Alors, ces modes d'action et de soutien sont principalement des colloques, ça peut être des colloques de réflexion amont ou après des appels à projets, des colloques de restitution qui vont alimenter une réflexion dans le futur. Et puis, bien sûr, ce sont des appels à projets. Vous avez peut-être entendu parler des PEPS de site, des défis. Donc, on a parlé de mastodons, il y en a énormément. Et en l'occurrence, là, sur cet appel à projets et ces colloques, on va parler d'interdisciplinarité scientifique, très scientifique. Mais la MITI accueille aussi la plateforme des réseaux métiers et technologiques. Et là, on va avoir une notion d'interdisciplinarité technologique. Pourquoi ? Parce que cette plateforme, elle va coordonner 22 réseaux dont, autour de métiers ou de technologies, dont les populations sont transverses à l'organisme, c'est-à-dire qu'ils vont avoir pour origine des instituts différents. Donc ils vont avoir des approches autour d'un métier ou d'un objet technologique qui va être complémentaire, qui va être multidisciplinaire. Quand je dis transverse à l'organisme, c'est même au-delà de l'organisme, puisque ce sont des réseaux qui sont ouverts à toute ESR. C'est-à-dire qu'une étude de population nous a montré qu'on avait seulement 55%, seulement entre guillemets, 55% de CNRS, et on va avoir plus de 30% de ESR. Donc c'est vraiment un facteur d'enrichissement, mais qui fait que finalement que retraduire les populations qu'il y a dans les UMR. Donc, ces journées sont organisées par le réseau Médicis, et Médicis est un de ces 22 réseaux qui fédèrent les différents métiers de l'édition scientifique. Alors, j'ai découvert qu'il y avait énormément de métiers autour de cette édition. Et ces métiers, vos métiers, sont soumis à des contraintes et des mutations qui sont inhérentes, entre autres, à la loi sur une république numérique et au contexte de l'open science. Cela va vous amener à intégrer des nouveaux enjeux et des nouveaux outils, ce qui est une des raisons d'être de ces journées aujourd'hui. Au-delà de ça, je voudrais de ce contexte purement médicis, je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait que d'appartenir à une plateforme qui accueille 22 réseaux de tous horizons différents, technologiques et métiers différents, on a toutes les BAP qui sont représentées, ça s'inscrit dans une philosophie qui est aussi une philosophie de partage inter-réseau. Et un exemple très concret, dont le leadership est assuré par deux personnes de Médicis, c'est un atelier inter-réseau qui fédère des forces de réflexion multimétiers autour du cycle de la vie de la donnée. À chaque étape du cycle de vie de la donnée, on va regarder l'apport des différents métiers, ça peut être des métiers de l'informatique, ça peut être de l'édition scientifique, c'est même de l'instrumentation des fois. Donc vraiment, cette plateforme apporte cette force-là, de pouvoir faire travailler sur des objets techno différents métiers. Donc comme je l'ai dit, elle est pilotée à la fois par quelqu'un de Médicis, mais aussi de Renati. Bon, elles ne sont pas là aujourd'hui, mais elles seront là demain. Donc ces journées Médicis, c'est un espace privilégié de rencontre de vos professions, c'est un espace de réflexion et d'analyse prospective, et je vous le souhaite très fructueux. Si vous me permettez, je voudrais vraiment remercier le laboratoire d'accueil, parce que c'est toujours très lourd, et c'est très, vraiment indispensable d'avoir un soutien de laboratoire pour organiser ces rencontres. Et puis, je voudrais aussi remercier tout le comité d'organisation qui vous a concocté, à mon avis, un programme qui est très riche et qui va être très complet. Donc, je vous souhaite de bonnes journées.
Bon, ben voilà, tout a été dit pratiquement. Ces journées sont lancées. Elles sont lancées à Avignon. Vous n'avez pas été sans savoir qu'une première initiative avait été proposé en début d'année pour que les journées puissent se tenir à Roscoff. Les événements de cette année, on en a décidé autrement. Donc je voulais commencer déjà par remercier énormément Nicole Guyard qui a mené ce projet-là à l'époque avec cette équipe d'organisation qui s'est un petit peu diversifiée pour Avignon. Et donc nous sommes ici à Avignon pour ces 8e journée. Merci effectivement à Nathalie Brachet qui a été spontanément à nous proposer de venir les organiser ici. Bien sûr à Didier Josselin de lui avoir permis de consacrer du temps pour cette organisation. Et puis, bon, je vais être très très bref parce qu'on est déjà à 9h30, donc je vais passer mon temps à remercier des gens qui ont permis la tenue de ces journées. Alors c'est bien sûr Catherine Claire et toute l'action de la MITI. Appartenir à une plateforme réseau, comme Catherine vient de le rappeler, ce n'est pas uniquement un affichage, c'est vraiment une assistante, une aide permanente et un soutien financier aussi. Des conseils, des orientations, à la fois pour ces journées, à la fois pour les ANF, pour les journées thématiques, des orientations qui sont décidées ensemble. Puis nous avons des partenaires récurrents aussi qui nous soutiennent comme Sophie Mazins du département de l'information scientifique et technique du MESRI, du ministère, Laurence Elcoury et la DIST, donc la direction de l'information scientifique et technique du CNRS, l'INSHS, l'Institut des sciences humaines et sociales à travers Didier Torny et Odile Comtat, et puis également, même s'il fait partie du comité d'organisation, Romain Vanel à travers les annales Joseph Fourier, les AJF, qui participe aussi. Il est resté en dehors de la salle pour accueillir encore les gens qui arrivent. Donc je ne vais pas développer trop, encore une fois, la thématique. Pourtant, elle est riche, elle est intéressante, elle est un peu, elle provoque un petit peu avec ce titre qui, dont les contours sont pas forcément bien définis. En revanche, c'est un appel à aller voir un petit peu au-delà, un petit peu l'idée de décloisonner en fait nos modèles ou nos habitudes et nos métiers. D'autres domaines comme l'industrie n'ont pas hésité à s'emparer de ce terme de 4.0 en y intégrant des notions comme le machine learning, le deep learning, etc. Donc je pense qu'on en fait déjà en partie. Il y a un certain nombre d'outils que l'on utilise qui permettent d'approcher ces disciplines et ces évolutions. On va essayer à travers cette journée en tout cas de présenter une diversité d'outils qui servent à faire évoluer nos métiers. On va voir comment l'édition scientifique aborde un nouveau virage. Est-ce que nos modèles et nos modes éditoriaux peuvent répondre à cette nouvelle structuration de la recherche? Est-ce que nos revues sont finalement une fin en soi ou bien une interface entre un web sémantique, un web de données, et donc une évolution également de la structuration de la revue qui va permettre de répondre à ces enjeux? Ces journées, comme la plupart des autres journées, sont placées sous le signe de l'ouverture, du partage, du coopératif. C'est ce qui fait l'essence même du réseau. Et je pense qu'à travers toutes les communications que vous allez pouvoir entendre ou les échanges que vous allez pouvoir faire, on est encore en plein dans cette dynamique. Voilà, je m'arrêterai là, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de petits détails techniques et pratiques surtout à vous faire passer. Et je passe le micro à Céline.